Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite un excellent sabbat. C'est toujours une journée tellement encourageante. Et Dieu a mis dans le commandement du sabbat un autre commandement qui est celui de nous assembler pour être enseignés à partir de sa parole. Et chaque fois, on est nourri, fortifié, encouragé et ça nous donne la vision dont on a besoin pour continuer, même dans les temps difficiles. C'est pas pour rien que Dieu nous a ordonné de nous assembler, ceux qui peuvent se déplacer, ceux qui sont assez en santé pour le faire, pour être justement à cette sainte convocation. Aujourd'hui, mon message a pour titre « L'indispensable zèle ». Est-ce que j'ai du zèle dans tout ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment du zèle dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends? Vous savez, c'est une qualité très importante, même strictement sur le plan humain, parce que ceux qui font les choses avec zèle sont ceux qui réussissent. Alors que si on fait les choses mollement, sans y mettre tout notre cœur, nos chances de succès sont beaucoup moindres, même sur le plan humain, même sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'est également vrai. Il nous faut avoir du zèle. Dieu nous a révélé une vérité unique, merveilleuse, grandiose, le but même de l'existence humaine. Et le rôle qu'on peut jouer dans la préparation du monde à venir, maintenant et lorsque le monde à venir sera là. Et quand Dieu appelle quelqu'un, bien sûr, il lui donne un peu de son Saint-Esprit pour que la personne comprenne. Et avec ce qu'elle comprend, si la personne met en pratique, Dieu lui donne davantage de son Saint-Esprit pour faire le chemin jusqu'au baptême, après s'être repenti. Et après le baptême, Dieu place son Saint-Esprit dans la personne. Il lui donne sa force pour être capable de changer, de porter du fruit de l'Esprit et de se préparer au monde à venir. Mais si on a le Saint-Esprit, on doit agir avec foi. La foi, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Et si on a le Saint-Esprit, il faut agir avec conviction. Et nous avons un rôle à jouer là-dedans. Dieu ne fait pas tout pour nous. On reste libre. Toujours. Dieu respecte la liberté qu'il a donnée aux êtres humains. On reste toujours libre. Mais on doit agir avec foi, on doit agir avec conviction, on doit agir avec zèle. Et ça, c'est la partie qui nous appartient. D'y mettre du cœur dans ce que nous faisons pour plaire à Dieu. Dans nos études de Bible chaque jour, dans nos prières quotidiennes, dans nos supplications à lui pour les besoins de nos frères et pour qu'il mette fin au monde souffrant d'aujourd'hui. Ça, c'est notre rôle. Mais on est libre là-dedans. Et on doit agir avec zèle. On doit montrer à Dieu qu'on veut jouer notre part jusqu'au bout et qu'on tient à l'appel qu'il nous a lancé. Quand vous regardez le roi David, vous voyez à plusieurs endroits que David avait beaucoup de zèle pour Dieu. David savait qui était son Créateur et David voulait lui plaire. Et c'est pour ça qu'on voit dans Psaume 119, verset 139, par exemple, Psaume 119, verset 139, David dit, « Mon zèle me consume. » C'est le zèle de David, là. Il dit, « Mon zèle me consume. » C'est-à-dire, je suis bouillant à cause de ce que je sais, à cause de ce que Dieu est, de ce qu'il fait pour moi et de ce qu'il veut que je devienne. « Mon zèle me consume. » Et dans ce sens-là, il faisait, en un sens, écho au propos du Christ qu'on voit dans Psaume 69 et le verset 10. Quand le Christ dit, le zèle de ta maison, en parlant de la maison de Dieu, la maison de son Père, le zèle de ta maison me dévore, ou me consume, ou me rend ardent. Le Christ avait dit exactement la même chose. C'est quoi le Saint-Esprit de Dieu? Cette puissance que Dieu donne à ceux qui l'appellent. C'est quoi le Saint-Esprit? Il est défini clairement ici, 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. L'esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, vous avez un rôle à jouer par rapport au Saint-Esprit qui vous est donné. C'est ça que je veux vous amener à réaliser. C'est quoi le Saint-Esprit de Dieu sans le zèle? C'est quoi le Saint-Esprit de Dieu qui est amour, force et sagesse si notre zèle n'est pas mis à contribution? L'amour de Dieu, à ce moment-là, en nous, il est stagnant. Il ne produit pas ce qu'il devrait produire. Et la force de Dieu, elle est comme latente. Elle est là, mais elle n'est pas active pour produire ses fruits. C'est pour ça qu'il nous faut, avec l'Esprit de Dieu, agir, passer à l'action, avec zèle de tout cœur. Combien de fois dans la Bible, Dieu utilise justement cette expression-là, « de tout cœur ». Quand le Christ a défini le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie. » C'est ça. Ne pas faire les choses à demi. Dieu nous appelle à quelque chose de tellement grand qu'on doit le considérer avec respect et réagir avec zèle, avec reconnaissance. Matthieu, chapitre 11, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 11, et nous allons lire le verset 12. Matthieu, chapitre 11, et le verset 12. Le zèle, c'est indispensable, en d'autres termes, pour permettre au Saint-Esprit d'agir, pour permettre au Saint-Esprit de Dieu d'être efficace en nous. Et ça, c'est la part que nous avons à jouer. Le zèle qu'on montre pour étudier la Bible, pour prier, pour rendre service autour, pour nous efforcer d'être un exemple de la culture de Dieu dans ce monde qui est séparé de Dieu. Matthieu 11 et le verset 12. Regardez ici ce qui est écrit. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, la traduction n'est pas tout à fait exacte, parce que violent, nous autres, ça fait référence à quelqu'un qui est cruel, qui est dur. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux cruels ou à ceux qui sont durs, mais à ceux qui sont zélés. C'est dans le sens d'être zélé. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont zélés, qui apprécient leur appel et qui mettent toutes leurs énergies pour l'accomplir puis accomplir l'œuvre de Dieu. Plus on observe les lois de Dieu, plus Dieu nous donne sa force. Vous pourrez aller voir ce que Dieu avait promis aux Israélites dans Deutéronome 11, verset 8. Dieu avait promis aux Israélites qu'il leur donnerait la force d'entrer dans le pays promis et d'y vivre et d'être protégés s'ils obéissaient à sa loi. Cette promesse-là, elle s'applique à nous aujourd'hui. Israélites spirituels, si nous sommes zélés d'observer ses commandements puis de marcher dans ses voies, Dieu nous donne des promesses formidables qui sont absolument certaines. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a passé à travers de toutes les difficultés qu'il a connues? Pourquoi vous pensez? Il y avait la force de Dieu, oui, mais son zèle était là. Il considérait comme précieux son appel et il était zélé avec les choses qu'il connaissait et qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a tenu bon devant les adversaires et qu'il a passé à travers de grandes épreuves. Allez dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Après que Paul a eu connu le vrai Dieu, parce qu'il ne connaissait pas le vrai Dieu avant, même s'il observait à la lettre, pour ainsi dire, la religion des Juifs, et il ne connaissait pas le vrai Dieu, tant que le vrai Dieu ne s'est pas révélé à lui et qu'il lui a fait connaître ses lois dans leur dimension spirituelle et son plan réel sur sa création. À partir de ce moment-là, Paul a eu des nouvelles priorités dans sa vie et c'est devenu des priorités absolues. Et il y a tenu mordicus, dur comme fer, sans broncher. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. Il y a eu des moments de découragement humain, bien sûr. Mais il a toujours crié vers Dieu, il a toujours compté sur lui. Et Dieu lui a toujours donné de passer à travers. Philippiens 3, versets 7 et 8. Ici, Paul parle de ses antécédents, qu'il était un pharisien, qu'il avait été circoncis le huitième jour, qui, autrement dit, selon la tradition et les connaissances des Juifs, qui était, entre guillemets, parfait selon eux, mais il a réalisé qu'il n'était absolument pas parfait quand il a découvert la vraie religion du vrai Dieu. Et ici, il en parle en ces termes, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai rejetées comme une perte à cause de Christ. » comme nous, on a rejeté les faux enseignements qu'on a eus, même s'ils parlaient du Christ gentiment dans le passé, ils ne parlaient pas du vrai Christ de la Bible. On a appris à le connaître par la suite. Il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voyez-vous? Donc, priorité absolue, son appel, servir le Christ, accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ça le zèle. Maintenant, le vrai but de la vie, Paul l'avait trouvé et il y consacrait toute son énergie. Il n'y allait pas à demi là-dedans. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ce qu'il avait avant quand il pratiquait la justice des Juifs qui ajoutaient plein de choses à la loi et qui se pensaient parfaits parce qu'ils observaient la loi. Non, on peut devenir seulement parfait par l'aide de Dieu et on peut être purifié non pas en observant les lois, mais par le sang du Christ. Et toute cette connaissance-là, Paul l'avait acquise avec les enseignements du Christ. Il dit, je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle que j'avais avant, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et là, je vais plus loin. La foi, elle nous est donnée par Dieu. C'est un des fruits de l'Esprit. Mais je reviens encore à ça. La foi, c'est une qualité qui a besoin de notre participation. Elle a besoin de notre zèle pour qu'on la chérisse et qu'on s'en serve, voyez-vous, et qu'on la fasse, pour ainsi dire, fructifier, qu'on la rende agissante dans nos vies. Versets 10 et 11. Paul continue en disant ceci. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Oui, parce que c'est ce que Paul attendait. « Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Il savait qu'il y aurait une résurrection plus tard et qu'il serait ramené à la vie. Maintenant, après ça, Paul nous donne un conseil fantastique. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Même chose pour chacun d'entre nous, même si certains d'entre nous sont dans l'Église depuis 10, 20, 30, 40 années. Mais je cours pour tâcher de le saisir, parce que tant que la course n'est pas terminée, elle n'est pas terminée. Et la Bible dit même aux chrétiens que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous sommes toujours à risque, et ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut toujours être proche de Dieu, toujours compter sur lui, prier chaque jour, étudier chaque jour, puis nous efforcer de vivre selon ses lois. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il faut lutter jusqu'à la dernière bataille. Il faut lutter jusqu'à la dernière bataille. On peut perdre une bataille dans nos combats spirituels, mais perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Mais si on arrête après avoir perdu une bataille, on est certain de perdre la guerre. Mais si on se relève après chaque bataille et qu'on demande pardon à Dieu, qu'on demande son aide, on s'en va vers la victoire finale. Il faut lutter jusqu'au dernier moment, jusqu'au temps où nous allons fermer les yeux, si c'est notre cas. Mais certains d'entre nous, bien sûr, seront debout pour le retour de Christ, parce qu'on sait que le retour de Christ est très proche. Et je me rappelle avec beaucoup d'émotion un membre ancien de l'Église, un membre de longue date, à l'approche de ses derniers jours de vie, qui avait des moments de découragement et qui disait « Non, je ne me laisserai pas décourager. Je n'ai pas fait tout ce chemin-là par la puissance de Dieu pour arriver aux portes du royaume pour abandonner à la dernière minute. » La dernière bataille, avant la victoire. Et parfois, vers la fin, c'est plus difficile. Avant la victoire finale, parfois, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Paul n'était pas encore rendu, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Et il nous faut faire ça aussi, être capable de tourner la page sur les choses qui sont derrière nous, pour regarder ce qui est de fabuleux en avant, compter sur la puissance accessible de Dieu et ses promesses infaillibles. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Quand on parle de courir, on parle de zèle. Quand on court vers le but, on ne marche pas vers le but en s'arrêtant à gauche puis à droite pour perdre du temps, puis prendre un peu de repos ici et là, aller faire un détour. Non, non. Quand on court vers le but, si vous avez déjà vu une course, les gens ont un objectif et s'en vont directement vers ça. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai du zèle? Est-ce que vous avez du zèle pour courir vers ce but unique? Dans le fond, c'est le même but qui vous a été offert, qui vous est offert, que celui qui a été offert à Paul, qui a été offert à Pierre, qui a été offert aux serviteurs de l'Ancien Testament, à Moïse, aux autres, qui a été offert à M. Armstrong, à M. Appartient. C'est le même but. Et ceux qui sont décédés attendent le moment de la résurrection, comme l'apôtre Paul attend le moment de la résurrection pour avoir sa couronne, pour ne pas avoir couru en vain. Paul ne laissait rien le décourager, même si à l'occasion il y avait des creux de vagues, parce qu'humainement nous en avons tous. Et Paul en avait aussi. On voit certains de ses écrits où il dit « Parfois, nous sommes désolés, mais jamais complètement découragés. » On voit qu'il y avait des creux de vagues, mais il s'accrochait à Dieu et il continuait, il persévérait. C'est quoi ça? C'est le zèle. Et c'est ce qui nous permet de continuer. Dans les moments creux, il faut lever la tête, supplier Dieu encore plus. Et lui demander de nous aider à changer ce qu'on a dans notre esprit pour ne pas considérer les choses négatives, mais voir les belles choses que Dieu nous donne et nous rappeler qu'on peut toujours compter sur lui. Si on fait notre part, si on ne fait pas de compromis avec ses lois, dans les moments creux, levez la tête, suppliez Dieu et soyez convaincus que Dieu vous aime et que Dieu va vous aider et va vous amener au but si vous faites votre part, si je fais ma part. Ça s'applique à tout le monde. Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire ici le verset 13, qui en dit beaucoup. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, et il y en a peu qui l'y trouvent. Oui, parce que c'est le chemin qui exige des efforts, qui exige une persévérance, qui exige de placer notre confiance dans les mains de Dieu, qui exige d'être zélé pour faire les choses qu'on a à faire, même si nous ne sommes pas parfaits. Il y a un développement, il y a une croissance régulière là-dedans. La porte étroite, c'est un zèle, c'est même une jalousie. C'est intéressant de voir que le mot zèle vient de la même racine que le mot jalousie, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le mot jalousie, dans son sens originel, ça veut dire une ferveur, une ardeur, le fait de chérir quelque chose. C'est pour ça que Dieu dit à différents endroits dans la Bible qu'il est un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu jaloux dans le sens moderne du terme, où quelqu'un qui est jaloux, au sens moderne, il a un sentiment hostile, il éprouve un sentiment hostile en voyant quelqu'un d'autre avoir un avantage que lui n'a pas ou qu'il aimerait avoir. Il est jaloux de ça. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Jaloux dans le sens d'être jaloux comme Dieu, c'est de chérir ce qu'il y a de précieux, ne pas vouloir le perdre. Ne pas vouloir le perdre. Dieu ne veut pas perdre aucun de ses enfants. Il est jaloux de ses enfants. Il les chérit. C'est ça que ça veut dire. Et nous, ça doit être la même chose pour notre appel et ça doit être la même chose pour la porte étroite, même si elle est plus difficile que la porte large, où on fait des compromis pour se tirer notre épingle du jeu, pour bien paraître aux yeux des autres, pour ne pas être trop différent de la société. Mais si on fait ces compromis-là, on n'est nulle part ailleurs que dans cette société encore. Dieu ne tolère pas les compromis. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de l'Esprit qu'il nous a donné. Il chérit l'Esprit qu'il nous a donné. Et il veut que nous le chérissions aussi et que nous l'utilisions avec zèle pour garder ce que Dieu nous a donné, pour chérir cet Esprit-là, pour chérir notre appel, pour chérir le royaume qui s'en vient, qui va libérer l'humanité de toute les souffrances et de toutes les misères qu'on voit actuellement autour de nous et qu'on voit augmenter malheureusement parce qu'on sait que les choses vont devenir pires avant que le Christ revienne pour amener la libération totale. Il ne faut pas qu'on perde le Saint-Esprit parce qu'on peut perdre le Saint-Esprit. Parfois, certains ont répandu des choses fausses là-dessus en disant que c'est impossible de perdre le Saint-Esprit. Ceux qui disent ça ne connaissent pas la Bible, ne comprennent pas la Bible ou mentent carrément en annonçant un faux évangile et un faux Christ. Parce qu'on peut perdre le Saint-Esprit. On peut commencer par attrister le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut nous être retiré, tout simplement. Pourtant, on a un héritage grandiose qui nous attend si nous sommes fidèles. Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26. Et nous allons lire le verset 11. Ésaïe 26 et le verset 11. Quand on est zélé pour notre appel, pour les choses qu'on a à faire, à changer, pour plaire à Dieu, pour faire sa joie, comme un fils et une fille doivent faire la joie de leur père, quand on a ce zèle-là, on a la paix de Dieu, on a la paix du Christ en nous. Et on la sent, on la vit, cette paix-là, et elle est tellement bonne, malgré les turbulences dans lesquelles on peut se trouver. Ésaïe 26, verset 11. « Éternel, ta main est puissante. » Oh oui, c'est le Tout-Puissant. Ils ne l'aperçoivent pas. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, toute la société actuellement dans son ensemble, ne l'aperçoivent pas. D'ailleurs, ils rejettent même l'existence de Dieu. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Quand Dieu va intervenir, quand Dieu va ébranler les nations par la grande détresse et le jour de l'Éternel et par le retour de Christ, les gens vont voir, les gens vont comprendre. Mais ils seront confus parce qu'ils vont réaliser qu'ils avaient rejeté la source de vie, la source de protection, la source d'amour véritable. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Gardez le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Et quand Dieu nous appelle, qu'on voit la grandeur de cet appel-là, qu'on voit le vrai but de la vie, qu'on peut avoir accès à la vie éternelle, au trône de miséricorde, à l'aide constante de Dieu, qu'on peut avoir sa protection, sa guérison, s'il le juge à propos, qu'on peut avoir son aide de toute façon, dans toutes circonstances, on a une paix qui est impossible autrement. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Il faut être ferme, par exemple. Et ça revient à être zélé encore. Tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Et pourquoi on peut avoir la paix en se confiant en Dieu? Parce qu'on est convaincu à ce moment-là que ce qui nous arrive est la meilleure chose. Et ce que Dieu fait pour nous est la meilleure chose. Ou ce qu'il permet qu'il nous arrive est la meilleure chose. Et qu'il va nous bénir si nous continuons à être fidèles malgré les circonstances. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui essaient d'obéir à ses commandements, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On a cette confiance-là, et à ce moment-là, on a cette paix. Et regardez le verset 12 du même chapitre 26 d'Ésaïe. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et le chemin spirituel dont je vous parle, qu'on doit vivre dans l'obéissance des lois de Dieu, dans l'observance de ses fêtes, dans le développement de son caractère, c'est absolument impossible, humainement parlant. Ce n'est possible que par son Saint-Esprit. Et ça devient réalisable totalement que si nous utilisons avec zèle la puissance de son Saint-Esprit. C'est encore là notre part à jouer. Le zèle nous donne la paix. On considère comme précieux notre appel. On considère comme précieux nos responsabilités de vaincre, même les combats qu'on a amenés. C'est pas intéressant d'avoir à se battre pour se libérer de certaines faiblesses qu'on a. Et parfois, on se fait prendre à nouveau, après avoir réussi un bon bout de temps à vaincre certaines faiblesses. On retombe encore une fois, on est découragé. Mais il faut aller devant Dieu et dire, je me suis trompé encore, j'ai manqué mon coup, aide-moi. Et là, Dieu nous aide encore et on a cet encouragement extraordinaire. Même ces responsabilités-là, on doit les chérir. Parce que le processus qu'on vit en faisant ça, ça développe le caractère de Dieu et ça développe de faire encore davantage confiance à Dieu, de tout lui mettre entre les mains. Alors, quand les temps vont devenir encore plus difficiles qu'ils le sont maintenant, on aura été habitué de tout lui remettre entre les mains. On aura pleine confiance que, quelles que soient les circonstances, ce qui va arriver à chacun de nous va être pour le mieux si nous sommes fidèles. Tout simplement. Tout simplement. Et là est un grand encouragement. Le zèle est indispensable pour s'approcher de Dieu. Parce que si je ne fais pas d'études bibliques chaque jour, pensez-vous que je vais chérir mon appel? Que je vais chérir les choses de la Bible? Non. Et si je ne prie pas avec cœur, même en me forçant parfois, parce que parfois de prier, c'est un travail, comme de faire un autre travail, mais il faut que j'y mette le zèle, comme pour faire un autre travail, aussi un travail humain. Parfois, je n'ai pas le goût, parfois les mots ne me viennent pas. Parfois, je dois me mettre à genoux et prendre la Bible et ouvrir une page et lire ce qu'il y a dans la page et le dire à Dieu et à partir de là, me trouver des choses à lui dire. Certains le font. Quelqu'un m'en a parlé cette semaine qu'à un moment donné, il lui est arrivé de ne pas avoir rien à dire à Dieu, de se mettre à genoux, d'ouvrir la Bible, puis de lui lire une partie de page, puis de lui parler à partir de là. Mais ça, c'est le zèle de Dieu. Le côté humain, c'est qu'à un moment donné, il y a un creux de vague, puis là, on a moins le goût ou les idées ne viennent pas. Mais le zèle, c'est de dire, je vais te prier pareil. Aide-moi. Garde, là, je vais lire ça, là, je te le lis, puis aide-moi à comprendre des choses et à avancer. Là, Dieu voit qu'on est zélé, qu'on est ces fameux violents qui vont posséder le royaume. C'est ça. C'est ça. On y tient tellement qu'on continue malgré la difficulté ou malgré que ça ne nous dit pas de faire la chose en question. Zèle indispensable pour s'approcher de Dieu, pour aller de l'avant, pour ne pas abandonner malgré les déceptions qui peuvent arriver par rapport aux choses autour, aux gens autour, aux circonstances. Moi, j'ai un but dans la vie. Dieu me l'a montré. Je veux l'atteindre. Et je veux qu'il n'y ait rien qui m'empêche de l'atteindre. Et même par rapport à ceux de ma famille qui ne sont pas encore appelés, qui ne comprennent pas encore, c'est important que moi, je continue pour être là quand Dieu va les appeler en leur temps. Sans ça, celui qui va perdre, ça va être moi, parce que je ne serai pas là, alors que les miens seront là, parce que Dieu va les appeler en leur temps. Mais humainement, on peut être porté à se décourager en disant, « Je suis le seul de ma famille qui suis appelé. » Ça me fait mal, j'ai de la misère, je me sens seul. Oui, c'est vrai, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez des frères et des sœurs dans l'Église. Vous avez des gens qui sont prêts à vous aider, à vous encourager. On a la fraternité dans l'Église. Et Dieu est toujours à vos côtés. Le Christ a dit, « Je ne vous abandonnerai jamais. » À bien y penser, vous n'êtes jamais totalement seul. Il faut crier à lui, par exemple, quand on a ces difficultés-là qui arrivent. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12. Dieu a averti ici l'ancienne nation d'Israël, des Israélites physiques. Mais cet avertissement-là, ça s'applique à nous aujourd'hui, qui sommes l'Israël spirituel de Dieu au temps de la fin, son Église. Ecclésia, les appelés. Deutéronome 6, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui vous a appelé chacun d'entre vous individuellement à connaître son plan et à sortir de vos anciennes voies, comme moi à sortir de mes anciennes voies. C'était ça notre Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et c'est vrai, c'était un esclavage là où on était. Comme le monde aujourd'hui, malheureusement, vit dans un esclavage effroyable, de toutes sortes de façons. Écoutez, voyez ce qui arrive à nos pays israélites en ce moment, à l'Amérique en particulier. On redevient des esclaves. On redevient des esclaves. Et sous peu, malheureusement, tel que c'est indiqué dans la Bible, nos nations qui se sont détournées de Dieu, qui ont rejeté ses lois, non seulement les ont rejetées, mais actuellement les méprisent et se moquent de Dieu, vont être réamenées à nouveau en captivité, devenir des esclaves dans d'autres pays, comme ça a été le cas des Israélites autrefois. Verset 14, même chapitre. « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, voyez-vous. Il vous chérit et il chérit l'esprit qu'il vous a donné au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Il y a des milliers et des milliers de religions différentes sur la terre, des milliers de religions chrétiennes même, qui annoncent des choses différente de celle de la Bible. Parfois, ça se ressemble, mais c'est toujours comme le verre avec un peu de poison dedans. Un beau jus d'orange, mais avec un poison virulent à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour que tout le verre soit mortel. C'est ça. Des religions qui enseignent que les gens, après leur mort, vont au ciel ou en enfer. Des religions qui célèbrent le dimanche, alors que Dieu n'a jamais autorisé un quelconque changement pour quiconque dans la Bible. C'est son sabbat que Dieu a donné et qui sera observé dans le monde à venir. Jamais ça a été changé. Ceux qui annoncent des choses différentes ne sont pas les serviteurs de Dieu, absolument pas. Ce sont les autres dieux des nations autour. Nous sommes la nation israélite spirituelle moderne et nous devons rester attachés aux choses que nous ont été montrées. Dieu est jaloux et ça s'exprime par son amour divin pour nous et pour ses nations, pour les nations israélites et pour le monde entier. Parce que tout le monde, même s'ils ne sont pas des descendants des nations israélites, auront leur chance. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que sans le zèle, pensez-y comme il faut, sans le zèle, vous ne pouvez pas avoir de croissance spirituelle réelle. Sans zèle, vous ne pouvez pas avoir de croissance spirituelle réelle. Et sans être zélé, vous ne pouvez pas obtenir le salut. Rappelez-vous tantôt ce que le Christ a dit. Le royaume appartient aux zélés, aux violents, à ceux qui s'en emparent avec zèle, avec cœur, avec ardeur, pas avec demi-mesure ou en faisant des compromis, absolument pas. Dans Matthieu 24, verset 13, vous pourrez aller voir Matthieu 24, verset 13, le Christ a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est tenir, mais j'ajoute tenir avec zèle. C'est impliqué dans cette persévérance-là. Apocalypse, deuxième chapitre, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 2. Dans ces premiers chapitres du livre d'Apocalypse, le Christ donne des directives à l'Église du Nouveau Testament, c'est-à-dire aux sept étapes de l'Église de Dieu dans le temps jusqu'à son retour. Et si vous remarquez, à chacune de ces étapes de l'Église du Nouveau Testament jusqu'à son retour, le Christ prend bien soin de dire à chacune des églises, à chacune des étapes, à celui qui persévérera jusqu'à la fin et qui vaincra, celui-là recevra sa récompense. Voyez-vous? C'est bien dit à chacune des églises, parce que cet avertissement-là, cette directive-là, s'applique à tous les chrétiens depuis la fondation de l'Église du Nouveau Testament et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 26, on en a un exemple ici. Apocalypse 2, verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Voyez-vous, alors il y a cette question de persévérance ici. Acte 3, versets 21 et 22. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, il nous faut travailler à vaincre, il faut y travailler dur. Et dans le « dur », entre guillemets, c'est là qu'est notre zèle. Ne pas se décourager si on manque notre coup, remettre sur le métier notre travail, demander son aide, continuer, continuer, continuer. Vous savez une chose? La victoire ne s'atteint qu'avec le zèle, que grâce au zèle. Si on n'a pas ce zèle dont je vous parle aujourd'hui, nous sommes à risque. C'est une persévérance efficace. Le zèle dont je vous parle, c'est une persévérance, mais active et efficace, acharnée. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume, qui vont le recevoir. Alors, voyez-vous, ça ne se limite pas, comment je dirais, à attendre que les choses arrivent. Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné son Saint-Esprit, Dieu m'a révélé ses fêtes, j'ai plaisir à participer aux fêtes, j'assiste au sabbat, je suis content, j'attends. J'attends que les choses se réalisent, que le royaume vienne, ça va être beau, je vais être bien. Non. On a été appelé pour faire un travail, on a été appelé pour croître spirituellement, on a été appelé pour vaincre, on a été appelé pour nous purifier, pour changer, pour devenir des gens ordonnés, pour devenir des gens zélés, pour devenir des gens qui tiennent aux choses importantes de la vie. On ne se limite pas à attendre, mais à faire ce qu'il faut avec ardeur. Ça veut dire avec zèle, avec ardeur, pas de demi-mesure. C'est pour ça qu'il faut de temps à autre, par rapport à ce principe-là de l'importance du zèle, examiner nos comportements, nos façons d'aborder les choses. Vous savez, on est des êtres humains, puis on a tous des hauts et des bas. Et à un moment donné, un bon bout de temps, ça va bien, puis tout à coup, on se relâche. On est porté à ça. C'est pour ça que je vous donne un message comme celui-là aujourd'hui, pour qu'on se réveille par rapport au besoin de redevenir zélé si on a diminué la cadence. Et si on est encore en marche, pour dire merci à Dieu de nous aider et de lui demander de nous aider à continuer à être zélé jusqu'à la fin. Question, est-ce que Dieu est vraiment encore premier dans votre vie? Est-ce que Dieu est vraiment encore le premier dans votre vie? Autre question qui peut peut-être vous aider dans cet examen-là, est-ce que vous êtes prêt à tout abandonner pour obéir à Dieu? Je devrais demander une première question, est-ce que vous êtes prêt même à perdre des choses pour obéir à Dieu? Dans certains cas, on a perdu des choses pour obéir à Dieu. Mais on a gagné beaucoup plus qu'on a perdu, momentanément. Est-ce que vous êtes prêt à tout abandonner s'il le faut? Quand vous regardez certains serviteurs de Dieu, ils ont tout abandonné. Vous regardez Abraham, là. C'était quelque chose. À l'âge qu'il avait, il était riche, il avait des belles propriétés, c'était son pays où il avait grandi et tout ça. Dieu dit, tu pars, tu t'en vas dans un endroit que je vais te montrer plus tard. Laisse en arrière ta famille, tes amis, tes connaissances, ton statut social et tout ça. Tu t'en vas. Et Abraham a dit oui, sans poser de questions. Il a tout abandonné pour servir Dieu. Il y a l'autre aussi, l'autre bord, qui est zélé, mais pas pour le bien. Satan est zélé pour le mal. Et de ce temps-là, laissez-moi vous dire, il travaille d'arrache-pied, plus fort que d'habitude, je trouve. Parce que beaucoup de membres de l'Église sont attaqués de toutes sortes de façons. Il y a beaucoup d'épreuves qui se présentent dans l'Église parce que l'adversaire est zélé, lui, pour le mal. Il est puissant, on le sait. Et il sait comment vous rejoindre chacun. Il sait comment me rejoindre. Il connaît vos faiblesses, il connaît mes faiblesses. Il connaît nos faiblesses d'orgueil, de vanité. Il connaît nos faiblesses de convoitise aussi. Et il peut amener, des fois, sur un plateau d'argent, toutes sortes de petits compromis faciles à faire pour aller un peu plus loin dans sa direction et nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la protection de Dieu, nous éloigner de la façon de voir de Dieu, de la force de Dieu dont on a besoin absolument pour continuer. Et il veut semer le doute aussi. Attention, c'est son arme préférée. Ça a été l'arme qui a réussi le mieux la première fois avec Adam et Ève, semer le doute sur Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Hein? Non, vous ne mourrez pas. Vous avez une âme immortelle. Le plus gros mensonge qui a été fait, les églises du monde basent leur enseignement là-dessus aujourd'hui, sur l'âme immortelle et tout ça. Ça a été fort, ça a été puissant. Et Satan essaie encore de semer des doutes dans nos esprits. Il sème la division, la critique. Dieu le permet. Il ne faut pas oublier ça de l'autre côté. Dieu le permet. Dieu permet ces choses-là pour nous tester, pour nous fortifier. Comment est-ce qu'on apprend? C'est dans des situations adverses qu'on apprend. Comment est-ce qu'on développe la musculature? C'est en soulevant des poids, qui est des éléments contraires, si vous voulez, à la facilité. Et là, on développe la musculature, la capacité d'être plus fort. Et Dieu permet que ça nous arrive, à ses serviteurs, pour qu'on développe son caractère et qu'on soit prêt pour le royaume. Mais ne vous laissez pas priver de votre zèle par des doutes. Ne laissez pas les doutes entrer. Rappelez-vous que Satan séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre. Et n'oubliez pas que Satan est l'accusateur de nos frères. Quand quelqu'un vient vous donner des accusations contre quelqu'un d'autre, attention, attention, il y a un piège là, immédiatement devant vous. Dès que vous avez une accusation contre un frère, dites à la personne, si tu as quelque chose contre cette personne-là, va la voir. Si ça ne fonctionne pas, va voir le ministère, mais ne m'en parle pas à moi. Parce qu'à ce moment-là, ça colore notre perception des gens. Et la personne qui nous dit ça n'a pas le tiers des faits ou le dixième ou le centième des faits. Et de toute façon, ce n'est pas son affaire. Et de toute façon, ce n'est pas mon affaire non plus. Ça doit se régler avec la personne elle-même et avec le ministère, si ça ne va pas plus loin. Voyez-vous? faut s'éloigner de ceux qui sèment les doutes. C'est pas pour rien qu'il est écrit dans Apocalypse 3, verset 11, vous irez le voir vous-même, Apocalypse 3, verset 11, « Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire qu'on peut la perdre, notre couronne. On est à risque, toujours. Et pour être moins à risque, moi, je vous dirais ceci, et ça fait partie du zèle. Appréciez chaque parole de la Bible. Appréciez chaque parole de la Bible. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est une puissance. Il y a une puissance dedans. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Christ en écrit. Ça démontre son caractère, son plan, son amour, la grandeur de son plan. Chaque parole de la Bible est importante. Appréciez-la. Gardez chaque instruction biblique avec amour, avec zèle, avec jalousie. Les principes qui vous sont montrés là. Et vous savez quoi? Ça, c'est la clé pour entrer dans le royaume. Le royaume appartient aux violents, à ceux qui sont zélés, à ceux qui considèrent importantes les paroles de Dieu, chacune des paroles de Dieu. Quand vous lisez le psaume 119, vous voyez à quel point David était imbu de la loi de Dieu, comment son amour était grand pour les lois de Dieu. Il disait, gardez les lois, soyez totalement soumis à Dieu. Je résume, soyez totalement soumis à Dieu. Attachez-vous de tout cœur aux voix divines. C'est ce que David répète à maintes occasions dans le psaume 119 et à différents endroits. Quand vous regardez, par exemple, l'histoire de Jacob, ça nous montre beaucoup de choses à ce sujet-là, au sujet du zèle. S'il y en a un qui était zélé, c'est Jacob. Il a été zélé pour des mauvaises choses à un moment donné, mais il a payé le prix. Mais il a été zélé pour des bonnes choses aussi. Il a été zélé. Et comme je vous dis, il a manqué son coup, il a péché, puis il a payé cher aussi. Parce que ses péchés lui sont revenus par d'autres personnes à un moment donné. Lui qui avait piégé certaines personnes a été piégé par d'autres à son tour. Dieu l'a permis. Mais Dieu l'a béni parce qu'il s'est repenti puis il voulait obéir à Dieu. Et c'est le même Jacob qui est devenu Israël puis qui a eu 12 fils, qui est à l'origine des nations modernes d'Israël et qui aura un rôle à jouer dans le royaume. Genèse 32, ça vaut à peine qu'on aille. Genèse chapitre 32. On voit ici l'histoire de Jacob. Jacob, ici, était poursuivi par son frère Ésaü. Vous vous rappelez qu'il avait usurpé le droit d'aînesse à son frère, et son frère voulait le tuer, rien de moins. Et là, il courait après lui. Alors ça, c'était le retour d'ascenseur, parce que Jacob avait mal agi envers son frère, et là, ça, ce qu'il avait semé lui revenait. Et là, il était mal pris. Il avait ses enfants avec lui, et il était en fuite. Genèse 32, verset 24. Une nuit, Jacob est là, seul, à part des autres. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et on sait que cet homme-là, c'était dans le fond Jésus-Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Maintenant, regardez le verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller. » Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, et vous avez la recette du succès ici, qui s'applique à nous aussi. Qu'est-ce que Jacob a dit à Dieu? Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Dieu, je me détournerai pas de toi, même si moi je suis faible puis j'ai besoin de toi. Non, je me détournerai pas de toi. Tant que tu ne m'auras pas béni, tant que tu ne m'auras pas fait entrer dans ton royaume, moi je vais être zélé, je vais tenir mon bout, même si je ne suis pas parfait. Voyez-vous la différence? C'est pour ça que je dis que Jacob est notre exemple dans ce sens-là. Il a lutté toute la nuit. Écoutez, Jésus-Christ était là, il aurait pu l'anéantir. Il a joué le jeu parce qu'il y avait quelque chose à lui enseigner avec à Jacob. Et quand c'est arrivé au matin, là, Jacob il dit, là, je vois que tu es plus fort que moi, mais bénis-moi. Il savait, il commençait à se douter de qui il s'agissait. Bénis-moi. Et ça nous montre comment réussir. C'est que Jacob tenait à ce qu'il avait. Et il tenait à cette bénédiction-là. Il a montré beaucoup de courage. Regardez le verset 27 et 28 maintenant. Et il lui dit, quel est ton nom? C'est le Christ qui parle, le Dieu de l'Ancien Testament. Il dit, quel est ton nom? Il lui dit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. La récompense, la victoire. La victoire nous vient par celui avec qui nous luttons, grâce à qui nous luttons. Qu'est-ce que la Bible dit, le verset préféré de M. Meredith? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, le chef de l'armée de l'Éternel, le Tout-Puissant qui vit en moi, qui me donne la victoire sur mes faiblesses et qui va m'amener jusqu'au royaume si moi, je suis zélé et que je lui démontre mon zèle et mon ardeur, et le fait que je suis jaloux du Saint-Esprit que j'ai reçu et de l'appel que j'ai reçu, que je la chéris, esprit, que je chéris l'appel que j'ai reçu. Bien sûr, on a tous des problèmes. Bien sûr, on a tous des adversaires. Et certains d'entre nous, malheureusement, sont nonchalants parfois. Certains ne se hâtent pas de changer. Plus tard, ça va faire pareil. Ne se hâtent pas d'étudier la Bible régulièrement. Ah, j'ai déjà lu ça. Mais ça, c'est d'être nonchalant. Ça, c'est de ne pas être zélé. C'est d'être faible. C'est d'attrister l'esprit. C'est de perdre du terrain, de ne plus voir les choses comme Dieu les voit. Et là, on commence à craindre, on commence à avoir peur, on commence à se sentir de plus en plus seul. Et avec raison, parce qu'on s'éloigne de la source de la puissance de l'univers. Aussi simple que ça. Certains sont nonchalants, certains sont hésitants, certains ne passent pas assez vite à l'action et ne tiennent pas à continuer à passer à l'action. Et ils deviennent à ce moment-là à risque. Ils deviennent en danger. Vous savez, dans l'histoire, quand on remonte là, loin en arrière, nos nations étaient des nations croyantes. Et elles étaient bénies en conséquence. Maintenant, elles ne sont plus croyantes. Maintenant, elles rejettent Dieu. Et là, on voit les punitions commencer à s'abattre. Comme le Christ, comme Dieu avait annoncé ces choses-là par la bouche de Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, qui a inspiré les prophètes. Nos nations ont perdu le zèle de leurs ancêtres. Mais quand vous regardez les apôtres que le Christ a appelés, ils ont été zélés. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur travail, ils ont laissé tout, même leur famille, pour accomplir l'œuvre. Ils ont voyagé beaucoup après. Ils étaient seuls, parfois, des grandes périodes de temps, pour aller annoncer l'Évangile. C'est admirable ce qu'ils ont fait. Quand on va les rencontrer après le retour de Christ, quand ils vont être amenés à la vie, ça va être fascinant de leur faire raconter comment ils ont vécu ces choses-là en détail au cours de l'histoire de leur vie. On le saura un jour. Mais les apôtres ont démontré du zèle. Et nous, il faut faire la même chose. Avoir les yeux sur le Christ, celui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes actif dans ce que vous savez. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et ça, ça fait partie d'une de nos responsabilités, je devrais dire d'une de nos bénédictions, dans lesquelles on doit montrer du zèle, servir les autres, les encourager, les aider. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Ici, j'arrête. Je pense que je vais relire le verset, parce que c'est important. Je veux que vous voyez qu'il y a un lien entre le fait d'être zélé et de garder l'espérance. Que l'espérance du royaume, l'espérance de l'aide de Dieu, de l'accomplissement de ses promesses, soit vivante en nous et nous aide à avancer, il nous faut à ce moment-là avoir le zèle. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez pas ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Voilà le chemin que nous avons à suivre. Alors, même l'espérance a besoin de zèle pour rester vivante et pour rester productive. Bien sûr, tous les membres de l'Église disent vouloir être zélés, mais malheureusement, certains n'agissent pas en conséquence. Disent vouloir être zélés. C'est un sentiment noble. Mais si on ne passe pas à l'action, c'est un sentiment vide. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Il n'y en a pas de fruits. Dieu veut voir des fruits être produits dans nos vies. Il faut agir en conséquence. Il ne faut pas simplement avoir un simple désir d'être zélé un jour. Ça, j'appellerais ça une rêverie sans fruits. Une rêverie qui mène nulle part, qui n'a aucune valeur. La victoire n'est pas possible sans zèle et persévérance. Il faut qu'il y ait un zèle persévérant pour que notre victoire soit assurée. Demandez-le à Dieu. Demandez à Dieu, puis insistez. Vous savez, je ne suis rien. Et je n'ai rien. Prenez ça au point de départ. On peut chacun dire ça. Je ne suis rien et je n'ai rien. Qu'on soit riche ou pauvre, en santé ou malade, jeune ou vieux, nous sommes rien et nous n'avons rien. La preuve, c'est quand on arrive aux portes de la mort, il n'y a plus rien qui a d'importance. J'ai vu ça chez des personnes sur le point de décéder. Ce qu'ils tenaient tellement, ce à quoi ils tenaient tellement avant, ça n'a plus aucune importance. Aucune importance. Nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes nous vient de Dieu et les choses les plus importantes sont à venir et il nous en donne le dépôt maintenant et l'espérance maintenant. Dieu veut que vous deveniez quelque chose et plus que ça, Dieu veut que vous héritiez de toutes choses. Ça, c'est ce qui nous attend. Pour ça, je vous dis, faites confiance à Dieu, mais agissez, soyez zélés. Vous avez bien sûr des grands problèmes à surmonter, vous avez des grands défis à relever, des choses difficiles à vaincre. Peut-être vous n'y arrivez pas, mais travaillez-y, essayez, essayez, suppliez Dieu, essayez, essayez encore, vous allez réussir. Vous allez y arriver. Dieu l'a promis. Mais pas mollement en disant « Dieu va faire à ma place ». Si j'ai un problème avec l'alcool et que je garde une série de 40 onces dans mon sous-sol, je ne suis pas en train de régler mon problème. Même chose pour la cigarette. Si j'ai des problèmes à vaincre la cigarette et que je garde des cigarettes à la maison au cas où j'en ai besoin, je ne suis pas en train de plaire à Dieu au cas où je voudrais lui plaire. Je suis en train de continuer à garder mes petits en tout cas pour me protéger, pour faire mes choses, pour suivre mes désirs. Il faut que je prenne des décisions et que j'entre à l'action à un moment donné. Dieu va me tenir responsable de ces choses-là. Et c'est la même chose pour chacune de nos faiblesses, absolument. Il faut prier Dieu avec zèle, insister, insister, insister. Et on va réussir. Mais il faut faire notre part. Mettre de côté, s'éloigner des choses desquelles on doit s'éloigner. S'il faut s'éloigner de certaines personnes parce qu'elles nous amènent à pécher ou elles nous exposent, il faut s'en éloigner. Et s'il faut s'éloigner de certaines choses, il faut s'éloigner de certaines choses. Il faut faire notre part de ce côté-là. Et là, on demande à Dieu de nous donner sa force et il nous la donne pour réussir à vaincre. Mais il faut prier, et il faut prier avec zèle, c'est-à-dire de tout cœur. Vous pourrez aller voir vous-même, on ne s'y reportera pas, mais vous irez dans Luc 18. C'est la parabole que le Christ a donnée sur la veuve et le juge inique. Vous vous rappelez? Elle est revenue à la charge. Elle est revenue à la charge. Elle a insisté pour avoir la réponse du juge. Et finalement, il a fini par lui donner, même si c'était un juge mauvais, méchant. Dieu dit, vous ne pensez pas que Dieu, qui est un Dieu bon, qui veut que vous réussissiez, vous ne pensez pas qu'il ne vous répondra pas? Non, Dieu va vous répondre. Demandez-lui, mais insistez. Tenez à ce que vous demandez. Et Dieu va vous répondre, vous allez voir. Demandez avec foi, mais en faisant votre part. Si vous demandez avec foi, mais vous ne faites pas votre part, pensez-vous que Dieu va vous répondre? Posez-vous la question. Si vous posez la question, c'est y répondre, pour ainsi dire. Maintenez vos convictions, même dans l'adversité. Il ne faut pas perdre l'espoir, il ne faut pas perdre la foi. David était plein de courage, David était plein de zèle et plein de détermination. C'est formidable ce que David a pu réussir à accomplir. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille voir un passage à ce sujet-là. 1 Samuel chapitre 17. David était déterminé, il avait du courage. Mais il comptait sur Dieu. Il faisait sa part, par exemple. Mais il comptait sur Dieu, premièrement. 1 Samuel 17, verset 26. C'est l'épisode où David s'en va au camp. Les Israélites sont apeurés parce qu'il y a le géant Goliath avec l'autre armée. Et personne ne veut aller affronter le géant. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Voilà la position qu'il prend. Je connais Dieu, moi. Comment ça se fait qu'il insulte Dieu et que personne ne bouge ici? David luttait pour Dieu. On le voit déjà ici. Verset 42, allons plus loin. Verset 42. 42 à 44. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et regardez ce que David lui dit. Comment est-ce que David a pu vaincre, lui, le petit berger, tout petit, minuscule à côté de ce géant-là? Aucune armure. Il avait refusé l'armure que le roi avait voulu lui donner parce qu'elle était trop grande pour lui. Il n'était même pas capable de se déplacer avec. Là, il était avec simplement son habit de berger et puis sa fronde. Alors, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée. Tu es armé, mon grand, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi. » Regardez bien. « Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Voilà le courage, voilà le zèle, voilà la détermination d'un serviteur de Dieu qui connaît la grandeur du Dieu qu'il sert. Regardez le verset 47. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, et ce n'est pas par les cailloux de ma fronde non plus. » Regardez bien. « Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Et c'est la même chose aujourd'hui pour chacun des serviteurs de Dieu et chacune des servantes de Dieu, dans toutes les circonstances que nous avons à traverser. Vous savez, l'Église du Dieu vivant, c'est une toute petite Église. Comme dirait M. Meredith, c'est une écaille d'arachide sur l'océan, la grosseur de l'Église dans le monde actuellement. Pourtant, c'est l'Église de Dieu. Et ce qu'elle fait, par contre, ce n'est pas par sa force qu'elle le fait. C'est par la force de Dieu. Ce n'est pas dans le nombre. C'est dans la puissance de Dieu qui est en arrière. C'est un tout petit groupe, mais qui a la force de vaincre le géant, qui a la force de vaincre Satan, par le chef de l'armée de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu. On a Dieu comme protecteur et on a Dieu comme force indomptable. Et ça, c'est la différence, toute la différence. Il faut le voir, mais pour le voir, il faut se nourrir de cette parole-là, il faut lui parler, il faut faire des expériences avec lui, il faut mettre totalement notre confiance en lui et être zélé. Et si vous avez une attitude comme ça, vous n'échouerez jamais. Dieu va vous donner la victoire. Mais je reviens à ça, il faut que vous fassiez votre part. Comment? Ne pas craindre l'ennemi. Ne craindre aucun ennemi. Aller de l'avant. Compter sur Dieu. Ne pas chercher des excuses pour faire des compromis avec la loi. Mais chercher toutes les excuses possibles pour réussir et pour appliquer les lois de Dieu dans votre vie. Prenez les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6. On va aller rapidement à Éphésiens chapitre 6, où les armes de Dieu sont décrites. Et ça nous montre que Dieu doit toujours être en premier dans notre vie. Toujours, toujours être en premier. Éphésiens 6, verset 10. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » Voyez-vous comment on peut se fortifier? C'est par sa force toute-puissante, là. Donc, il faut que je sois proche de lui. Il faut que j'aie le zèle de lui demander et le zèle de mettre en pratique ce qu'il me montre. Et verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, maintenant et dans les temps très difficiles qui sont juste devant nous. » Il faudra déjà être prêt lorsque ces temps-là vont venir. Il faudra déjà avoir développé ces armes-là. Chaque arme, je dirais, a besoin de votre zèle et de votre courage pour être efficace. Chacune des armes qui est décrite ici a besoin que vous manifestiez du zèle en la mettant en pratique pour être efficace. Si vous avez une épée et que vous la laissez dans son fourreau ou que vous l'avez en main, tout ça, mais que vous la tenez mollement et que l'adversaire vous attaque et tout ça, quel bien est-ce que ça vous sert? Vous seriez aussi bien de ne pas en avoir parce que ça n'a pas d'effet. Vous pouvez avoir la parole de l'Esprit de Dieu, mais si vous ne l'utilisez pas, si vous ne la chérissez pas elle ne produit pas les fruits qu'elle devrait produire, tout simplement. C'est ça que je veux vous faire comprendre dans le message aujourd'hui. Chacune des armes de Dieu, elles nous sont données gratuitement, n'oubliez pas. C'est une autre bénédiction de Dieu. Et elles nous sont données pour qu'on parvienne au royaume. Mais pour qu'on parvienne en étant zélé avec ces armes-là. Mais si on ne les utilise presque pas, on n'atteint pas l'objectif et on ne développe pas ce qu'on doit développer, quelles que soient les circonstances ou les pertes qu'on doit encourir. Ne jamais regretter ce que nous laissons derrière à cause de Jésus-Christ. Ne jamais regretter ce que nous laissons derrière à cause de Jésus-Christ. Certains ont dit, je dois travailler le samedi parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Dieu va comprendre ça. Oui, Dieu va comprendre. Mais Dieu va comprendre une chose. C'est que Dieu va comprendre que vous ne lui obéissez pas et que vous n'êtes pas disposé à lui obéir si vous faites ça. Que vous n'êtes pas disposé à lui obéir si vous agissez de la sorte. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Ou on lui appartient ou on ne lui appartient pas. D'autres ont fait confiance à Dieu en faisant sa volonté. Ont même perdu leur travail. J'en connais. Mais par après, ils ont été bénis, et parfois beaucoup plus qu'avant, par d'autres travails même qui étaient meilleurs. Dieu sait, et Dieu nous teste là-dessus. Dieu veut voir où est notre cœur vraiment. Les conditions actuelles sont difficiles, mais c'est justement le moment pour exercer un zèle persévérant. Et les conditions vont être plus difficiles dans les mois qui viennent. Les conditions vont être plus difficiles. Et il nous faudra déjà avoir ce zèle persévérant-là pour simplement continuer à le faire. Sinon, ça peut être comme décourageant d'entrer là-dedans en n'ayant pas l'équipement qu'il faut. Ce zèle-là, c'est notre équipement de mettre en action les outils que Dieu nous donne pour vaincre. Et le Christ nous a fait une promesse extraordinaire. Il dit, « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne t'oublierai. » Ça, c'est ceux que Dieu a appelés, que le Christ a choisi lui-même pour qu'il devienne ses disciples. Oui, l'ennemi de David était très fort, mais c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Et chacune des armes que Dieu nous donne sont indispensables, mais elles doivent être activées régulièrement. Et on doit travailler avec ces armes-là. Même si vous êtes malade, très malade, n'abandonnez pas. Même si vous êtes pauvre, même si vous êtes sans travail, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Même si ceux autour de vous vous critiquent, vous méprisent, vous ridiculisent, vous abandonnent ou vous persécutent, n'abandonnez pas. On est proche de d'autres étapes majeures. On est proche du but. L'Évangile de paix va vous donner le zèle si vous le chérissez. Vous savez une chose? On connaît la fin heureuse de l'histoire. Et ça, c'est tellement encourageant. Et la fin heureuse de l'histoire, ça peut être la fin heureuse de l'histoire de chacun et de chacune d'entre vous. Si vous manifestez le même zèle d'ici le retour de Christ, quelles que soient les circonstances, et Dieu va prendre soin de vous. C'est une promesse infaillible. Faites la volonté de Dieu, utilisez les armes de Dieu, laissez le Christ combattre en vous, demandez-lui, et vous allez atteindre le but du royaume, la paix extraordinaire, le bonheur et la joie. Mais je vous dis, pour arriver à ça, développez le zèle qui va vous permettre d'atteindre le but et de recevoir, comme Paul, comme M. Appartient, comme M. Armstrong, comme Moïse, comme les autres serviteurs de Dieu, de recevoir la couronne de gloire dans des conditions incroyables.